Bonsoir à vous. Une saison au théâtre avec ce soir la comédienne Anne Kessler. Elle occupe ces jours-ci magistralement le rôle d'une épouse crédule et hilarante dans l'hôtel du libre-échange de Feydeau, mis en scène par Isabelle Nanty. Elle n'avait que 24 ans lorsqu'elle est rentrée à la Comédie-Française, c'était en 1989. D'Antoine Vitez à Éric Ruff, elle a connu depuis 6 administrateurs, elle a joué dans plus de 40 spectacles. Elle a été dirigée par Piotr Fomenko, Alain Françon, Jean-Pierre Vincent, Denis Podalydès, Jacques Lassalle, Christophe Roque ou encore Arnaud Desplechin. Elle a signé elle-même 6 représentations à Richelieu, au Vieux Colombier, au Studio Théâtre. Les chiffres ont l'air d'être fastidieux, c'est vrai, mais ils disent plus que leur simple énoncé. Il raconte l'ampleur d'une carrière, son rythme soutenu, la part de travail engagée et le plaisir bien sûr à passer des bras d'honneur à ceux d'un metteur en scène. Comment reste-t-on soi-même lorsqu'on voue sa vie à devenir un autre? Réponse avec Anne Kessler qui est au micro d'une saison au théâtre ce soir jusqu'à 21h.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs.
Bonsoir Anne Kessler.
Bonsoir.
Il est très tentant de s'appuyer sur cette chanson magnifique de Barbara, c'est vous qui l'avez choisie, pour au fond vous ramener vous aussi du côté de l'enfance. Votre enfance, cette enfance d'avant la Comédie Française, puisque je le disais, vous y êtes rentrée très jeune, 24 ans, on est encore un petit peu un bébé. Hein. Et je me demandais si dans votre enfance, le théâtre était déjà présent, soit concrètement, soit dans votre tête.
Il est arrivé comme spectatrice, j'ai été par le lycée, je me souviens que j'avais été voir plusieurs pièces d'Ariane Nouchkine, j'avais été au Français, j'avais été chez Peter Brook, était venu au lycée, donc le théâtre...
Vous étiez dans quel lycée? C'est magnifique ça.
Oui, c'était incroyable, et d'ailleurs moi qui n'étais jamais choisie pour rien, à un moment donné on était tous en cercle et Peter Brook était venu vers moi et m'avait fait danser, j'avais détesté ça, être désignée, j'avais été terrifiée. J'étais au lycée Montaigne et c'est Madame Roman qui nous avait fait venir tous ces gens extraordinaires.
Professeur de français.
Professeur de français. Moi, j'ai eu des professeurs de français incroyables.
De l'importance, hein, d'ailleurs, de ces gens qui mettent les jeunes en contact avec l'art très vite, finalement.
Oui, absolument. Et qui nous font comprendre que ça va nous faire comprendre la vie, que ça va nous faire comprendre le monde, les autres. Et très vite, on est sensibilisé d'une manière incroyable. J'aime beaucoup ces professeurs.
Et alors après, comment ça s'est passé? Vous étiez au lycée, vous êtes entrée dans une école de théâtre, vous avez choisi de faire du théâtre votre métier assez rapidement?
Non, j'ai fait un peu de théâtre parce que j'étais un petit peu tendue. Alors on m'a dit, tiens, peut-être tu pourrais faire un peu de théâtre pour te calmer, pour te détendre. Donc je l'ai vu au départ comme un jeu, même si au fond de moi j'en rêvais. Et puis très vite j'ai compris que les études c'est presque une fuite. J'ai vu aussi que j'aimais travailler des scènes, que je voulais tout le temps passer, que j'aimais rencontrer les auteurs et que peut-être. Mais j'ai mis du temps avant d'oser m'imaginer actrice.
Et quand on rentre à la Comédie Française à 24 ans, est-ce qu'on s'imagine qu'on va y passer toute sa vie? Est-ce que c'est ça qu'on se dit, je rentre et je n'en sors plus?
Non, pas du tout, parce que je suis rentrée au Français alors que j'avais pas fait le conservatoire, avec Antoine Vitez qui m'a demandé de venir, grâce à une mise en scène d'André Stégère. Et donc je suis rentrée en pensant que j'allais partir. Je pensais que j'allais faire cette pièce, c'était déjà extraordinaire, et puis après j'allais partir. Ensuite il m'a demandé de devenir pensionnaire. Alors là, j'étais vraiment très heureuse, parce que je me suis dit, pendant un an, je vais travailler, je vais peut-être avoir d'autres rôles. Mais un an, ça m'allait très très bien. Mmh. Et après, moi, j'étais très contente d'être pensionnaire, que ça se renouvelle tous les ans. Ça m'allait très très bien. Le sociétariat m'a plutôt plus inquiétée que réjouie au
il
début.
Il est arrivé quand, le sociétariat? Le sociétariat, ça veut dire que vous n'êtes pas à la merci d'une sorte d'éviction à la fin de l'année, grosso modo.
Voilà,
vous êtes un peu plus tranquille, disons.
Je suis un peu plus tranquille pour un peu plus de temps. Mm. Mais on n'est jamais tranquille, jamais, jamais. Le sociétariat est venu assez vite. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression qu'il venait très, très vite. Trop, trop vite. Mm. C'est pour ça que j'étais inquiète.
Est-ce que le fait d'avoir connu 6 administrateurs, je le disais, il y a eu Antoine Vitas, c'est lui qui vous fait venir, et puis dans l'ordre ou le désordre, Jacques Lassalle, Jean-Pierre Miquel, Marcel Bozonnet, Muriel Mayette et aujourd'hui Éric Ruff, ça crée dans la troupe une forme d'instabilité. Comment vous êtes, dans quel état vous êtes, vous, quand ça change, les administrateurs? Parce que là, ils se sont succédés à un rythme... Ces derniers temps, ça va, ça s'est calmé, mais il y a eu des moments où ça a été plus séquencé que ça.
C'est-à-dire que quand Antoine est parti, malheureusement, c'est qu'il est vraiment parti. Donc là, ça, c'était juste du chagrin. C'était...
Oui, parce qu'il est mort.
Voilà, exactement. Mmh. Malheureusement, voilà, il manque au théâtre énormément. D'ailleurs, quand Patrice Chéreau est parti, j'avais la sensation qu'on se rappelait aussi qu'Antoine Vitesse était parti. C'était des piliers tellement importants. Enfin, voilà, ça c'était très triste. Et puis après, Jacques Lassalle est venu. Il est parti lui aussi, il n'est resté que 3 ans. Mais Jean-Pierre Miquel est resté assez longtemps, donc il y a eu une certaine stabilité. Mais la troupe est très forte. Ça change et puis ça change pas tant que ça. C'est les personnes qui changent, les acteurs. Peut-être qu'effectivement, suivant leur goût, les administrateurs demandent à des acteurs différents. Ça change. Mais enfin, il faut s'adapter. En plus, moi, je suis dans cette troupe projet après projet. J'ai un spectacle, c'est presque pour moi peut-être le dernier. C'est toujours, il n'y a que ce spectacle qui compte. Je suis complètement dans l'instant.
Pourquoi est-ce que vous raisonnez comme ça, Anne Kessler?
Parce que je peux pas faire autrement. Mais je raisonne. Je sais pas si c'est même du raisonnement. Je vis comme ça. Ce qui est pas toujours très marrant. Je suis vraiment dans l'instant.
C'est pas si mal.
La jolie jambe, chère fille. Tu es un rayon de soleil et tu as brûlé la moelle de mes os.
Seigneur, ce n'est pas là le langage d'un cavalier.
Que faut-il te donner pour être ta camériste cette nuit? Les jolis pieds à déchausser.
Lâche mon pied, ça vient!
Non! Jusqu'à ce que tu m'aies dit quand nous coucherons ensemble.
La petite Strozzi s'en va, rouge comme braise. Vous l'avez fâchée, ça vient.
La petite Strozzi, Louise Strozzi, c'était vous, Anne Kessler. C'était 1989, c'est votre deuxième spectacle au Français, Laurens Assio.
Ouais, c'était Musée, magnifique.
Mise en scène par Georges Lavaudan.
Oui, c'était Recep Mitrovica qui jouait Laurens Assio.
Oui.
Et c'était, je trouve que c'est magnifique d'entendre Musset. Il faut à nouveau entendre Musset à Richelieu. Moi, j'adore Musset. Et c'était magnifique de jouer Louis Strozzi. J'ai adoré ça. Et c'était grâce à Louis Strozzi que ensuite Jean-Luc Boutet m'avait engagé pour jouer le Barbier de Séville.
Louis Strozzi meurt empoisonné dans la pièce de Musset. Est-ce que vous êtes souvent morte en scène?
Non, je ne suis morte qu'une fois en scène et j'ai adoré ça. C'est génial de mourir en scène.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est jubilatoire à mourir en scène?
D'abord parce que c'est le contraire de la vérité, enfin ça c'est de la réalité. C'est pas le contraire de la vérité, mais c'est le contraire de la réalité. On meurt, je ne peux pas vous expliquer comme c'est amusant.
Il y avait, il y a 2 saisons à peu près, au Théâtre de la Colline, je ne sais pas si vous l'avez vu, un spectacle d'une artiste italienne qui s'appelle Daria De Florian, et elle était venue nous expliquer au micro d'une saison au théâtre que on ne peut pas jouer la mort sur une scène de théâtre parce qu'on est vivant, donc ce n'est pas possible, mais ce qu'on peut jouer, c'est mourir. Comment meurt-on? Et en fait, ça m'a rappelé la scène que vous aviez avec Michel Villermoz, qui est un compagnon de route du Français, qui est avec vous là actuellement dans le spectacle de Isabelle Nanty, dans Père de Strindberg, ce magnifique spectacle mis en scène par Arnaud Desplechin. Il jouait votre mari et il meurt. Et il y avait entre vous deux à ce moment-là une osmose incroyable.
Oui, Arnaud n'avait de cesse de trouver la complicité de ces deux-là qui allaient se mettre à mort l'un et l'autre. Enfin, si c'était pas lui, ça aurait été elle. Il fallait que quelqu'un meure. Donc il cherchait l'amour, il cherchait là où il s'était entendu. Et à ce moment-là, évidemment, il y avait une nécessité de pardon, une nécessité de bon, c'est toi qui meurs, mais je t'aime, je t'ai aimé. Voilà, on ne pouvait pas vivre tous les deux sur cette planète ensemble, mais on s'aime. Et ça, c'est vraiment lié à l'envie d'Arnaud de faire en sorte que ces deux personnes qui avaient l'air de se haïr, en tout cas qui se haïssaient devant les gens, s'étaient aimées. Et oui, c'est vrai, c'était le moment que je préférais. Mais aussi parce que c'était un rôle assez difficile et que c'était la fin.
Et voilà. Ça s'arrêtait, le tourment s'arrêtait.
C'était fini.
C'est votre mari de prédilection, Michel Vuillermoz, à la Comédie Française sur les planches. Parce que là, vous êtes mariée avec lui, vous êtes Madame Pinglet et Monsieur Pinglet dans l'hôtel du Libre-Échange.
Mais pendant que je travaillais le Strindberg, j'arrêtais pas de penser à Fedot. J'arrêtais pas de me dire, ah oui, je me disais tout le temps, c'est pas les mêmes, mais c'est la même époque. Ils sont hantés par les mêmes choses. Ils disent la même chose, que c'est impossible, le couple est impossible. Et évidemment, ils n'ont pas les mêmes cultures, mais ils ont une folie commune. Et pendant que je joue Fedot, je pense à Strindberg. Et j'ai deux phrases qui sont les mêmes. Par exemple, je dis à mon mari, tu ne peux pas vouloir que je te dise ce qui n'est pas. Et Laura, dans Strindberg de Père, disait ça. Et je dis ça tous les soirs en ce moment à Pinglet, en lui disant d'une manière, ça peut faire rire là. Et c'est ce qui est très salvateur pour moi. C'est comme si toute la souffrance, parce qu'il y en a une réelle chez Strindberg, elle est aussi chez Fedot, mais elle est magnifique parce que les gens explosent de rire.
Strindberg, c'est un auteur que vous aimez bien. D'ailleurs, vous l'avez mis en scène.
Hein. Oui, je l'aime beaucoup.
Pas tout seul, vous l'avez mis en scène avec Ibsen.
Et Bergman.
Trois auteurs qui regardent les femmes, qui parlent des femmes. Pas de la même manière, hein, mais les trois ont un regard sur la femme qui est assez singulier.
Qui est singulier, mais moi, je ne pense pas qu'il soit misogyne. D'ailleurs, ni Fedot n'est misogyne. Enfin, moi, je ne le vis pas comme ça. Parce qu'il donne des rôles extraordinaire. Donc, je pense que le misogyne, c'est celui qui dirait à la femme d'être une potiche et de passer et de sortir dès qu'elle a montré son joli corps ou son. Donc, je pense au contraire qu'ils sont intrigués. Ce sont des hommes. Ils écrivent. Ils changent pas de sexe pour écrire, mais ils sont fascinés par les femmes. Ils les aiment malgré tout.
Et Alfred Jarry, l'auteur de Ubu, il est misogyne pour vous?
Alors, il est. Moi, je dirais que c'est plutôt un enfant qui ne connaît pas bien.
Ah, enfin, me voilà à l'abri. Je suis seule ici. Ce n'est pas dommage. Oh, mais quelle course effrénée. Traverser toute la Pologne en 4 jours. Tous les malheurs m'ont assaillie à la fois. Aussitôt partie cette grosse bourrique, je vais à la crypte m'enrichir. Bientôt après, je manque d'être lapidée par ce bougre lasse et ses enragés. Je perds mon cavalier, le palotin Giron, qui était si amoureux de mes attraits qu'il se pâmait d'aise en me voyant, et même, m'a-t-on assuré, en ne me voyant pas, ce qui est le comble de la tendresse. Il se serait fait couper en deux pour moi, le pauvre garçon. La preuve, c'est qu'il a été coupé en 4 par bougre lasse. Pif, paf, pan. Je pense mourir. Ensuite donc, je prends la fuite, poursuivie par la foule en fureur. Je quitte le palais, j'arrive à la Vistule. Tous les ponts étaient gardés. Je passe le fleuve à la nage, espérant ainsi lasser mes persécuteurs. De tous côtés, la noblesse se rassemble et me poursuit. Je manque 1000 fois périr, étouffé dans un cercle de Polonais, acharné à me perdre. Enfin, je trompais leur fureur, et après 4 jours de course dans la neige de ce qui fut mon royaume, j'arrive me réfugier ici.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. When we're out together, dance cheek to cheek.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Alors, on vient d'entendre un extrait de Ubu, d'Alfred Jarry, Anne Kessler. C'est une fiction, hein, radiophonique pour France Culture que vous aviez enregistrée, qui a été diffusée en 2012. C'est pas la captation du spectacle, mise en scène par Jean-Pierre Vincent à la Comédie Française en 2010. Vous étiez donc la mère Ubu, en face de vous, Serge Bagdasarian. C'est drôle d'ailleurs, comme on vous met pour époux des grands gaillards énormes, très grands, géants, alors que vous êtes une toute petite femme, toute fluette et toute menue.
Ah, je pense que au théâtre, c'est amusant de faire cette différence-là. En tout cas, pour Ubu, c'était Oui, je pense que Isabelle aussi, Isabelle Nanty, ça l'amusait beaucoup d'avoir un grand Michel Viermoz et puis moi à côté.
Alors, en écoutant ce monologue, et c'est quelque chose qui est très sensible quand on vous voit jouer, Anne Kessler, on entend à quel point vous savez jouer avec votre voix. Un peu comme jouer avec sa voix Armstrong, qu'on est en train d'écouter grâce à vous. Il y a quelque chose de la modulation chez vous, et je me demandais si au fond, pour vous, jouer, c'était d'une certaine manière chanter.
Ah, ça me fait plaisir que vous me disiez ça, mais en même temps, je vous promets que je n'y pense pas. Je pense jamais à ma voix, et quand un metteur en scène m'en parle, ça peut un peu me troubler, parce que j'aime bien qu'elle me surprenne aussi, et que si elle se fait plus grave, j'ai pas la sensation d'y penser.
Vous n'êtes pas maîtresse de votre voix de bout en bout?
Non,
non.
Je suis maîtresse d'elle quand, un peu comme un cheval, tout à coup. Enfin, je monte pas à cheval, mais disons que comme si je trouve que elle me fragilise trop, elle va peut-être un peu pas être agréable aux gens, ou qu'elle est un peu tendue, ou alors là, je vais essayer de comprendre pourquoi elle est tendue, et je vais donc essayer de la calmer, de la détendre. Mais sinon, non, j'y pense pas du tout, j'essaye d'être très simple, j'essaye d'être très droite, de ne pas faire de voix.
Est-ce que les mots qu'on a en bouche, qu'on doit proférer quand on est comédien, changent justement quelque chose à son timbre, à ses sonorités, à cette façon que vous avez parfois de retenir les voyelles et puis de les sortir, de parler plus de l'intérieur et puis tout à coup ça sort plus vers l'extérieur? Est-ce que la qualité des textes, la nature des textes, comiques, tragiques et ainsi de suite, change des choses, Anne Kessler?
Oui, bah, je pense que vous avez raison, c'est ça. Je pense que c'est l'auteur qui l'a probablement entendu comme ça. Et quand on a l'impression d'être assez dans son médium et de bien véhiculer le sens, de bien se faire entendre, comprendre, je pense que c'est parce qu'on a bien retrouvé l'écriture, le comment il ou elle l'a entendu et comment il veut qu'on l'entende nous-mêmes et que les gens l'écoutent.
Quand vous jouez des pièces comiques, parce que je trouve que vous avez un talent comique absolument invraisemblable, mais vous avez aussi l'autre talent, c'est-à-dire quand on vous voit dans Père de Strindberg, dans ce rôle très douloureux, très sec, très dur, assez ingrat dans lequel vous a dirigé Arnaud Desplechin, et qu'on vous voit là, dirigé par Isabelle Nanty, à la limite d'une sorte de folie pure, hein, on se dit que pour vous, le comique, c'est une façon de, pas de lâcher prise, mais de franchir une forme de ligne jaune.
Oui, c'est juste ce que vous dites aussi, moi j'ai toujours, j'adore faire rire, mais je pense que ça se ressemble drôlement. Je me souviens d'une fois, un metteur en scène, je lui avais dit, j'ai l'impression de pas avoir de puissance dramatique quand j'étais plus jeune, et il m'avait dit, mais si tu passes par le comique, tu arriveras toujours, c'est-à-dire que j'ai toujours envie de rire, en fait, même quand c'est douloureux, même Laura, je finissais par, au bout d'un moment, avoir un rire quand même en moi. Et pour le comique, c'est exactement la même chose. Tout ce qu'on fait et qu'on peut rire à l'intérieur, ça peut vraiment être large. Alors, en fait, en vous répondant, je crois que je pense de la même façon le grand tragique et le grand comique. Mmh. C'est pas à moi de prendre en compte ça. L'auteur, d'ailleurs, dans ma scène, la dernière scène avec Michel Viermoz,
vous parlez de Père,
de l'hôtel, non, dans l'hôtel du libre échange, elle est écrite comme une tragédie et je la joue presque comme une, mais bien sûr que c'est presque quand même. Mais ce petit presque, c'est peut-être ça le comique.
Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un effet d'entraînement à avoir pour partenaire des génies comiques comme Christian Eck?
Ah bah, c'est-à-dire que...
Parce que lui, c'est un fou furieux. Il y a une séquence, je le dis aux auditeurs qui iront voir le spectacle, il faut qu'ils y aillent. Entre vous, à la fin, qui revenez dans un état apocalyptique, et lui, lorsqu'il verse le thé, il y a quelque chose qui est assez inénarrable sur le plateau de la salle Richieu.
C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire dans ce que fait Christian Eck, c'est un petit peu... c'est une comparaison qui lui déplairait. Enfin, je ne sais pas si ça lui... Quand on voit les frères Marx jouer au piano, jouer de la harpe ou faire dire leur réplique insensée, on a la sensation que ça vient de l'enfance et que donc ça vient de c'est depuis tellement longtemps qu'il verse le thé comme ça, Christian Eck, que personne ne peut lui apprendre. C'est un maître, c'est un maître. Ouais, il est incroyable.
Ma chère amie, qu'est-ce que tu as ?
L'échec, vous me rendez la vie insupportable.
Ah ben, ma chère amie, qu'est-ce que vous direz
quand vous aurez comme moi 20 ans de ménage.
Plains-toi donc, je t'ai rendu la vie très heureuse.
Et moi aussi.
Heureuse?
Ah bah oui, parlons-en.
Mais parfaitement.
Non, tu ne me l'as pas rendue heureuse.
Si, je l'ai rendue heureuse.
Non.
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 Ah non. Non, il n'y a pas moyen de travailler comme ça, je m'en vais. Non mais c'est-à-dire, je me demande pourquoi je me suis mariée à monsieur. Enfin, est-ce qu'il se conduit comme un époux doit le faire?
Oh.
Non. Mais il s'imagine que je me suis mariée pour surveiller le ménage et garder la maison, car enfin, qu'est-ce que je suis en dehors de ça? Rien. Il me traite comme une quantité négligeable. Il me laisse de côté.
Comment? Ma pauvre amie, vraiment il vous laisse? Oh, c'est très mal.
Mais non, c'est de l'exagération.
Ah, vous savez, nous avons 20 ans de ménage, monsieur Pinglet et moi, mais si jamais mon mari s'avisait d'être comme ça avec moi,
Comment? Vraiment?
Elle se vante, elle se vante.
Mais enfin, ma chère amie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je n'aille pas ce soir à cette expertise?
Si, si, allez-y. Que vous soyez là-bas, que vous soyez ici, je vous trouve toujours aussi éloignée.
Oh, toujours cette rengaine.
Je vous avouerai que j'attendais autre chose du mariage. Ah, on a du mérite à rester une femme honnête avec vous.
Allons bon, voilà autre chose.
Ça, elle a raison.
Oh, fiche-moi la paix, je t'en prie, tais-toi. Si tu t'en mêles aussi...
Dites-moi, Anne Kessler, quand vous faites en « on », ça c'est dans le texte ou c'est vous?
Ah oui, oui, vraiment.
C'est dans le texte?
C'est très 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 écrit, Fédo, et il y a « ah, ah ». Et même au début, quand on le cherche, on en rajoute, on se dit « mais c'est pas possible, ah, c'est absurde ». Alors j'essaie de le trouver dans le rire, ou alors je faisais « ah, 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 ah ». Mais non, il y a « ah, ah », et il fallait trouver ces « ah ». Et après, c'est très amusant, on dit « bon, bah alors on va dire « ah, ah » en toute simplicité, et c'est quand on dit « ah, ah »,
Que le rire.
Voilà. Et je voulais dire aussi d'entendre Florence Viala et Jérôme Pouli. C'est merveilleux de retrouver tous ces partenaires, parce que Jérôme Pouli et Florence Viala, on avait déjà joué ensemble dans un Fédo, qu'avait mis en scène Lucas Semleb, qui était le dindon. Et donc, il y a une famille comme ça de Fédo qui se recrée. Une connivence, ouais.
Certains disent que pour jouer Fédo, il faut laisser absolument la psychologie de côté. Je sais pas quelle partie a pris Isabelle Nanty dans la direction d'acteur. Comment, vous en pensez quoi, vous? Anne Kessler, qu'il avait déjà joué, effectivement,
oui,
Fédo.
Moi,
faut se fier qu'à la mécanique, en fait.
Oui. Alors, les gens, je sais que ce terme de psychologie, il est pas très bien vu. Moi, je pense qu'il y en a plein, au contraire, de la psychologie chez Fédo. Mais c'est peut-être justement parce que lui, il a fait ce boulot-là de fondation, qu'il faut pas nous s'en occuper. C'est peut-être pas forcément le chemin qui va nous amener le plus facilement à en extraire la spontanéité, la vie et la folie. Donc, je ne dirais pas que j'y pense tout le temps, puisque Fédo, lui, y a pensé. Donc, voilà ce que moi je pense de ça. Isabelle, elle a essayé de respecter nos méthodes de travail. Elle avait la sensation d'avoir une quinzaine d'acteurs qui avaient chacun une méthode de travail différente. Et je pense qu'elle connaît la fragilité du clown de chacun. Et que pour que le clown de chacun s'épanouisse, il faut pas trop abîmer le chemin du travail. En tout cas, c'est ce que j'avais l'impression qu'elle voulait de nous et ce qu'elle nous disait sans cesse. Donc, elle nous a beaucoup laissé explorer ensemble, mais en même temps, il fallait nous rassembler. Alors, je crois qu'elle avait beaucoup rêvé en amont à l'univers du spectacle, à la pièce. Et lorsque nous étions dans le travail, elle allait très... Mais c'était toujours très vivant ce qu'elle nous disait. C'est une personne et une artiste incroyable, Isabelle Nanty.
Elle dit d'ailleurs que c'est sa dernière mise en scène. J'espère que ce n'est pas le cas.
Moi, j'ai l'impression qu'elle, c'est une femme de parole. Donc, elle dit pas ça pour rigoler. Elle le dit vraiment. La chose que je lui disais souvent quand elle me disait ça, c'est que peut-être elle aura le droit de se contredire quand tout à coup il y aura un projet qui sera absolument indispensable qu'elle monte. Et là, elle reviendra, elle refera une mise en scène. Mais je crois qu'elle est sincère pour l'instant. Elle a envie de jouer, certainement. Peut-être d'écrire, peut-être qu'elle sait pas sa mise en scène. Peut-être au cinéma, je sais pas, mais là, je crois qu'au théâtre, c'est vrai, elle a l'air de...
On parlait tout à l'heure de la misogynie des auteurs, qui pour vous n'en est pas une. Là, on vient d'entendre un extrait où quand même, ce qui est dit par les femmes est assez incroyable. Ce que Fédo fait dire aux femmes est assez incroyable. D'ailleurs, il faut dire que dans ce spectacle, qui est l'histoire d'un homme qui veut tromper sa femme avec la femme de son meilleur ami, qui évidemment ne va pas y arriver, mais bon, vous enfermez votre mari chez lui, parce que vous allez passer la soirée chez votre sœur, vous l'enfermez à clé parce que vous n'avez pas du tout envie qu'il sorte.
Oui.
Bon, il va sortir, mais peu importe. C'est pas mal comme personnage de femme, hein.
C'est-à-dire que sur la misogynie, c'est vrai que les femmes disent des choses invraisemblables, mais les hommes aussi.
Oui.
Je trouve que c'est plutôt une... Il décrit une société de parvenus qui ne savent rien, qui ne savent pas grand-chose, qui en même temps veulent quand même baigner dans la culture parce que ça fait bien. Et donc ils ont beaucoup de travers, beaucoup de ridicules. Je trouve que ni les hommes ni les femmes sont épargnés. Et que, comme chez Marivaux, je dirais que c'est plutôt les personnages... Je trouve que le personnage de Victoire est très sauvé. Il apparaît peu, mais en plus, il est joué par Pauline Clément, qui est magnifique. Et c'est des personnages qui sont sauvés parce que ils sont très spontanés. Eux ne veulent pas plus que ce qu'ils sont. Et voilà. Donc, pour dire sur la bêtise de ce que peuvent dire les femmes, je trouve que les hommes en disent autant et presque plus. Et ils sont en plus plus méchant, je trouve, encore.
Pourquoi Anne Kessler, alors que tant d'autres de vos camarades sont à la fois à la Comédie française et puis s'échappent par toutes les fenêtres et par toutes les portes pour y revenir, hein, pourquoi vous, finalement, vous n'avez pas fait ce choix-là? Vous faites des mises en scène, mais sauf une, vous les faites toutes dans l'enceinte de la Comédie française. On ne vous voit pas trop au cinéma.
Non.
Vous n'allez pas jouer non plus hors de la Comédie française, en tout cas pas à ma connaissance, ou pas beaucoup. Vous avez vraiment dédié cas par cas de projet, puisque vous raisonnez dans le présent, à la Comédie française.
Oui, c'est pas, pour dire la vérité, c'est pas un choix, ça s'est passé comme ça, et peut-être je suis un peu fataliste et un peu...
Vous y êtes bien, peut-être, tout simplement.
Oui, j'y suis bien, ça c'est certain, parce que sinon, là, c'est sûr, je partirais. Mais oui, je ne sais pas pourquoi. Le cinéma, parce qu'il n'est pas venu me demander. Donc,
il a bien eu tort, mais d'ailleurs, il n'est pas trop tard.
Peut-être, mais moi, je ferme aucune porte, parce que je trouve que c'est le début de... C'est pas bien de fermer des portes. Et en même temps, il faut aussi ne pas s'aigrir et ne pas se dire, oh là là, pourquoi. Donc, il faut garder cet équilibre il faut être lucide, il faut dire que c'est vrai, que c'est un fait, mais que c'est comme ça.
Vous ne pratiquez pas la double inconstance.
Non.
Pour reprendre le titre d'une mise en scène que vous avez signée il y a peu de temps avec de très beaux acteurs, dont notamment Stéphane Verhupen, et que vous aviez déjà dirigé.
Dans Trois hommes dans un salon.
Oui.
Il jouait le journaliste.
Sur spectacle sur Brel.
Brassens.
Oui. Et Ferré, qui était un ravissant spectacle d'ailleurs. Hein.
Oui, c'était.
Vous êtes assez copine avec les garçons de la Comédie française. Grégory Gadebois aussi.
Oui.
Fait partie de vos compagnons.
Je suis copine
route.
Avec les garçons, mais je suis copine avec les filles aussi. Parce que par exemple, la dernière fois, on m'a dit que j'avais un peu plus valorisé les femmes. Je trouve que c'est un point commun que j'avais avec Isabelle Nanty, elle dit souvent qu'elle veut valoriser. Et j'aime l'idée de... Quand on me dit que j'ai valorisé, ça me fait plaisir.
Ne sais-je pas bien qu'on ne peut la voir sans l'aimer?
Et moi, je voudrais qu'il m'aimait ma part. Car j'ai du chagrin de ne pouvoir lui rendre le change. Encore si c'était un homme comme tant d'autres à qui on dit ce qu'on veut. Mais il est trop agréable pour qu'on le maltraite, lui.
On se quitte et on vous quitte, à regret. Anne Kessler, avec un écho de la double inconstance dans votre mise en scène. C'était Marivaux et c'était en 2014. En rappelant que l'hôtel du libre-échange de Feydeau dans la mise en scène d'Isabelle Nanty, c'est à la Comédie française Salle Richelieu jusqu'au 25 juillet. Vous vouliez rajouter quelque
oui,
chose?
Oui, la double inconstance se reprend en fin juin.
Ah ben voilà. En plus, la double inconstance se reprend fin juin aussi à Richelieu. C'est ça, c'est l'alternance donc.
Voilà.
Super, très bonne nouvelle. Merci beaucoup Anne Kessler.
Merci à vous.
Vous pouvez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture en attendant de nous retrouver dans 15 jours, une fois passées les élections législatives. Rendez-vous donc le 25 juin. Marie Dalquier, Jacques Hubert, Vanessa Nadjar, Joël Gaillou vous saluent et vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des fictions présentées par Blandine Masson.